Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République.
L'hommage de toute la nation à Samuel Paty, ce prof d'histoire assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Nous continuerons ce combat pour la liberté parce que nous vous le devons, a déclaré Emmanuel Macron. Du côté de l'enquête, 7 personnes sont mises en examen. Parmi elles, les 2 collégiens qui avaient désigné la victime au terroriste. Dans ce contexte, une autre mise en examen, celui d'une lycéenne près de Toulouse qui a insulté une enseignante après un débat sur le port du voile. Dans ce journal également, bientôt de nouvelles zones soumises au couvre-feu en France, en Irlande. Reconfinement total de la population depuis minuit. Et puis le jackpot pour un petit village du Lot-et-Garonne qui hérite d'1 million d'euros de la part d'un ancien cantonnier.
Juste après le journal, mon invité inattendu, on va parler du bégaiement, un handicap qui touche 650 000 personnes en France, qui fait rire, oui, souvent, mais seulement c'est un véritable traumatisme. On retrouvera aussi Fanny Agostini, notre planète et le drame écologique d'assécher et d'urbaniser les zones humides, fertiles. On va parler maraîchage. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h01 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des proches, des élèves et de nombreux responsables politiques. 400 personnes étaient rassemblées dans la cour d'honneur de la Sorbonne hier soir pour rendre hommage à Samuel Paty, près d'une semaine après sa décapitation à Conflans-Sainte-Honorine. Après lui avoir remis la Légion d'honneur à titre posthume, Emmanuel Macron a rappelé les valeurs qu'incarnait ce professeur.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays, le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre.
Extrait du discours très solennel du président de la République hier soir lors de l'hommage national.
Et l'enquête se poursuit. 7 personnes ont été mises en examen, notamment le père de l'élève qui avait dénoncé le professeur et le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, tous deux pour complicité d'assassinat terroriste.
Et parmi les suspects aussi, 2 collégiens de 14 et 15 ans et Justin Morin, leur rôle dans l'attaque est clairement établi. Ils ont délibérément aidé le terroriste.
Oui, sans les 2 adolescents, le tueur n'aurait pas pu identifier Samuel Paty. Le jour des faits, ce sont bien eux qui lui ont permis de mettre un visage sur un nom en échange d'argent. Le terroriste est arrivé aux alentours de 14h devant l'établissement. Il aborde un des jeunes. Il reste alors au moins 2 heures ensemble jusqu'à l'arrivée d'autres élèves, précise Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste.
Le collégien qui a reçu l'argent accompagné d'un de ses camarades a donné alors une description physique de Samuel Paty à Abdullah Kanzorov. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de l'obliger a demandé pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper.
Fait marquant, le petit groupe s'écarte ensuite pour se cacher des caméras de vidéosurveillance et d'une patrouille de police. Peu avant 17h, Samuel Paty sort du collège. Les 2 adolescents, rejoints par d'autres, le désignent. Le terroriste part à sa poursuite. Ce n'est pas la première fois que 2 mineurs sont poursuivis dans un dossier criminel terroriste, mais leur démarche, les longues heures passées avec le tueur, interrogent, selon les mots du procureur national antiterroriste. Vu la gravité des faits, leur âge ne leur permettra pas d'échapper à la prison. Ils risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
Justin Morin du service Police et Justice d'Europe 1.
Et dans ce contexte, près de Toulouse, une lycéenne de 16 ans vient d'être mise en examen pour avoir insulté une professeure.
Oui, ça se passe à Muret. La jeune fille avait pris à partie cette enseignante entre 2 cours à la suite d'un débat sur le voile. Benjamin Peter.
Les faits remontent au 9 octobre. Ce sont d'abord 4 lycéens de ce cours d'éducation civique de CAP consacré à l'égalité homme-femme qui orientent le débat sur la question du voile. Ils remettent en cause leur enseignante, invoquent la charia, le débat s'ébruite dans tout le lycée Aragon. Le ton monte, comme l'explique Philippe Destable, inspecteur d'académie adjoint de Haute-Garonne.
C'est surtout à l'interclasse qu'une élève d'une autre classe est venue insulter, injurier la professeure en question. C'est évidemment tout à fait inadmissible. Hein.
Pour Carole Delga, la présidente de région en charge des lycées, il faut être ferme avec ses comportements.
Bien sûr, tout mon soutien à l'enseignante. Il n'y a pas à avoir de menaces sur les enseignants. La foi, elle ne commande pas la loi. Toutes les religions sont à respecter, mais elles n'ont pas à rentrer. Aucune religion n'a rentré dans l'espace public.
En début de semaine, 7 lycéens ont donc été placés en garde à vue suite à la plainte de l'enseignante. Des auditions qui ont débouché sur cette mise en examen de cette jeune fille pour outrage. Elle et deux autres élèves ont par ailleurs été exclus et un conseil de discipline doit se tenir à la rentrée. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
6h05 sur Europe 1, la suite du journal avec Sophie Echen. L'actualité, c'est aussi l'épidémie de coronavirus. La situation continue de se dégrader en France. Plus de 2200 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation.
30% de ces malades se trouvent en Île-de-France où les hôpitaux sont au bord de la saturation. Face à la progression du virus, le gouvernement va annoncer de nouvelles restrictions ce soir. Des départements vont basculer en zone d'alerte maximale, ce qui signifiera l'application du couvre-feu de 21h à 6h.
Ailleurs, en Europe, on se barricade aussi contre le Covid. L'Irlande vient de reconfiner sa population depuis minuit et pour 6 semaines au moins, c'est le premier pays européen à renouveler la mesure.
Les écoles restaient ouvertes. En revanche, Anaïs Cordoba, tous les commerces non essentiels referment leurs portes.
Oui, les Irlandais ont ordre de rester à la maison et ne peuvent sortir qu'à certaines conditions et dans un rayon de 5 km autour de chez eux. Librairies, coiffeurs, salles de sport, bars, pubs et restaurants ferment, comme le Momo, l'un des restaurants les plus courus de Waterford, petite ville portuaire du sud de l'Irlande. Camilla, sa patronne, ne peut faire que de la vente à emporter ou des livraisons à domicile.
Nous sommes mieux préparés qu'avant le premier confinement. Notre système de livraison en ligne est au point, mais mentalement, c'est plus dur. Nous sommes fatigués. Fermer et rouvrir un restaurant, c'est très stressant, très cher et ça demande énormément de travail. Il y a des jours où je suis très déprimée. Je me pose des questions sur l'avenir. Est-ce que je devrais changer de profession? Là, nous étions en train de rénover la cuisine. Mais à quoi ça sert? Pourrais-je un jour me servir de cette nouvelle cuisine?
Michael Martin, le Premier ministre, a demandé aux Irlandais de respecter ce nouveau confinement qui doit durer jusqu'au 1er décembre pour pouvoir profiter de la période de Noël. Mais Camilla ne croit pas qu'on autorise les restaurants à rouvrir avant la fin de l'année. D'ailleurs, plusieurs de ses clients ont déjà annulé leurs réservations pour la période des fêtes.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 Outre-Manche, à Londres. Après une semaine de blocage, les négociations reprennent aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Objectif, combler les divergences pour échapper à un éventuel no deal en vue du Brexit.
Europe 1. On marque une pause dans ce journal et on va vous raconter une belle histoire. Vous êtes peut-être déjà demandé ce que vous feriez avec 1 million d'euros. Eh bien, il y a des habitants d'un village qui vont devoir trouver une réponse parce qu'ils viennent de toucher le pactole légué par un ancien cantonnier. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Simon Rubin.
6h09 sur Europe 1, la suite du journal Sophie Echen.
C'est une petite révolution dans l'Église catholique. Le pape François défend les droits des couples gays et se prononce en faveur des contrats d'union civile pour les personnes homosexuelles, estimant qu'elles ont le droit d'être en famille.
Et puis cette belle histoire dont on vous parlait avant la pause, celle du village de Sérignac qui peut remercier son bienfaiteur.
Sérignac, c'est une petite commune de 1200 âmes dans le Lot-et-Garonne et qui vient de bénéficier d'1 million d'euros légués par un ancien habitant. Une heureuse surprise pour le maire Jean Dreuil, qui connaissait bien son généreux donateur.
C'était un personnage, c'était un vieux garçon, hein. Pas d'enfant, pas de femme. Il était cantonnier, il cherchait des cèpes, un œuf et les pisses en lit, le soir ça faisait son repas. Personnage poète aussi, lui à 90 ans, il se souvenait de poèmes qu'il écrivait. Si je rajoute en plus qu'il était boursicoteur, le 440, il connaissait tout ça. C'était un bon matheux, il dépensait pas ce qu'il avait, il vivait chichement, mais ça lui plaisait. On y a vraiment cru quand le notaire nous a demandé de passer à son étude. Donation, la mairie de Sérignac, c'était des placements. Et il y avait un coffre à ouvrir. On s'est retrouvé à avoir à peu près 1 million d'euros. Et puis ça dépend de ce qu'il y a dans le coffre. Dans ce coffre, on voit une grosse boîte en fer et à l'intérieur, 3 lingots d'or et de mémoire, 170 pièces Napoléon. C'est un beau cadeau. Mais au-delà de l'argent, c'est le côté humain. Ce don, ça amène beaucoup de trésorerie à la commune. On va se préparer pour les 2 ans à venir sur des beaux projets. La cantine scolaire, le club du basket. Et encore, merci, merci.
Eh oui, il a des raisons de dire merci, le maire de Sérignac. Témoignage recueilli par Stéphane Place.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 6h. Prochain journal 6h30 avec François Geffrier.